السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الوالد، حالكم شيخ؟
الله يسلمك، خير وانتم طيبون.
الحمد لله، كلنا بخير وانتم واسرتكم.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
نحن مستعدون شيخ.
هكذا الصوت يعني طيب ولا؟
واضح.
واضح؟
نعم شيخ.
توكل على الله.
وفقكم الله شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc je n'ai trouvé de mieux à faire aujourd'hui qu'une nasiha de Cheikh Mohamed Farkous hafidhahullah ta'ala, que j'ai trouvé sur son site, qui s'appelle « Conseil à celui qui réside dans un pays de méfiance ». Et avec quelques petits changements de ma part dans la traduction. Donc, Cheikh a dit, hafidhahullah ta'ala, il a dit « Louange Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur celui qu'Allah Azzawajal a envoyé en miséricorde pour l'univers, ainsi que sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la rétribution ». Cela dit, il est évident que le fait de voyager à destination d'un pays de mécréance, d'habiter dans les pays des mécréants et de vivre parmi eux est l'une des plus grandes perversités et des plus dangereuses perditions pour la religion du musulman. De même, il est évident que la résidence dans ces pays entraîne de considérables atteintes à sa conduite, à son comportement et à ses habitudes, de sorte que les trois bornes sacrées de sa personnalité n'y seront pas à l'abri, c'est-à-dire son corps, son honneur et ses biens. Car cohabiter avec les mécréants amène, comme cela est bien connu, à perdre sa personnalité et à s'en apparenter en leur ressemblant dans leurs coutumes et leurs fêtes, en parlant leur langue, et en les imitant dans leur conduite et leur caractère, en plus des signes de mécréance et d'athéisme qu'ils manifestent. Cela amène d'une façon ou d'une autre à leur ressembler, allant jusqu'à abolir les traits distinctifs de la personnalité islamique, tant dans les coutumes que dans le comportement et les actes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'entremêle aux mécréants et cohabite avec lui devient comme lui. Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha, numéro 2330. Celui qui s'entremêle au mécréant et cohabite avec lui, devient comme lui. Il en est de même pour celui qui affectionne cela et en est satisfait. Car le prophète alayhi salatu wasalam a dit, l'homme est avec celui qu'il aime. L'homme est avec celui qu'il aime. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et ceci est appuyé par un autre hadith du prophète alayhi sallam, lorsqu'il a dit « Quiconque imite des gens en fait partie ». Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghadid, 1269. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit « le minimum qu'indique ce hadith, quiconque imite des gens en fait partie, il a dit, le minimum qu'indique ce hadith est que le fait de s'en apparenter est interdit. Même si son sens apparent est que celui qui s'en apparente est un mécréant, comme dans la parole d'Allah, « وَمِنْ يَتَوُلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ » Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. C'est en raison de ces méfaits et de ces dangers que l'immigration des musulmans des pays de mécréance vers des pays d'islam est une obligation rigoureuse pour tout individu résident en terre de mécréance qui subit des oppressions dans sa religion, des atteintes à son intégrité physique, à ses biens ou à son honneur, et qui en souffre au point de négliger les obligations religieuses et d'outrepasser les limites d'Allah Azza wa Jal en commettant ses interdits. En effet, celui-ci ne peut, c'est-à-dire le musulman vivant dans les pays de mécréance, celui-ci ne peut, du fait de la pression psychologique et idéologique qu'il subit en terre de mécréance, il ne peut pratiquer des causes qui protègent sa personne et sa famille de l'enfer et qui sont représentées par la foi et les bonnes actions. Allah Azza wa Jal a dit, « Ya ayyuhal ladina amanu, qu'u anfusakum wa ahdikum naran wa quduha al-nas wa al-hijara » عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تحريم 6. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera des gens et des pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Aussi, l'immigration de ces pays de mécréance peut revêtir un caractère seulement recommandé, c'est-à-dire le fait d'émigrer d'un pays des kofars vers un pays musulman, des fois peut être seulement recommandé et pas obligatoire. Et ce dans le cas où le mal et le supplice qui touchent le musulman lorsqu'il réside en terre de mécréance sont légers et ne le poussent pas à délaisser certaines obligations de l'islam. C'est pourquoi le but premier de l'émigration vers Allah et de trouver un environnement sûr, loin de toute crainte et de toute perturbation, et de pouvoir subvenir aux besoins de son corps en vivant du licite, dans un pays de sécurité qui lui garantit de pouvoir s'adonner à l'adoration d'Allah Ta'ala, et ainsi se purifier et se rapprocher de lui, tout en étant convaincu que la promesse d'Allah Azza wa Jalla est véridique. Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et quiconque immigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Allah Azza wa Jalla lui réservera assurément dans la terre vers laquelle il va immigrer la sécurité, la dignité, la stabilité, des dons considérables et une vie agréable. Qu'il médite sur ce que Allah Azza wa Jalla a accordé aux premiers émigrés, lorsqu'il leur a prodigué la maîtrise et le pouvoir sur terre. Il a changé leur faiblesse en force, leur avilissement en fierté, leur pauvreté en richesse et leur ignorance en savoir. Allah Azza wa Jalla a dit, « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Nour 55. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait aussi force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Allah Azza wa Jal accomplit donc sa promesse envers celui qui emprunte son chemin en l'adorant comme il se doit et sans rien lui associer. Maintenant, si une telle nécessité, comme définie par la religion, ou une exigence pressante amène le musulman à résider temporairement dans un pays de mécréance, que ce soit pour la da'wah ou pour un intérêt terrestre, une nécessité ou un simple besoin comme travailler, commercer, étudier, se faire soigner ou autres intérêts permis qui sont inexistants en son pays ou indisponibles, alors ces cas de figure, selon les savants, sont exceptés de l'interdiction. Toutefois, celui qui va dans un pays de mécréance doit remplir les conditions suivantes. 1. Il doit connaître suffisamment les jugements de sa religion pour la protéger. 2. Sa foi et son islam doivent être à l'abri des tentations et des choubouhettes, et des passions aussi, shahawat, de peur qu'il ne dévie du droit chemin. 3. Il doit pouvoir accomplir et exprimer de façon complète et parfaite les rituels islamiques, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc., sans crainte ni empêchement. Aussi, est comprise dans ces rituels la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, externe et apparente, c'est-à-dire le mode vestimentaire et l'aspect général. Rien ne doit l'empêcher de s'attacher à la droiture dans son profil extérieur différent de l'aspect des polythéistes. Quatrièmement, il doit pouvoir se conformer au principe de la croyance, de l'alliance et du désaveu, l'ouala ou l'bara, qui est une conséquence impliquée de l'attestation de la shahada et d'une de ses conditions. Il doit éviter de s'allier aux mécréants et de les apprécier tels quels. Il doit aussi les détester en son fort intérieur et désapprouver leurs actes. Il les déteste, pourquoi? Parce qu'ils font, yani, les interdits, ils font le shirk, ils font ce que Allah Ta'ala a interdit. En effet, le désaveu exige que l'on déteste la mécréance et le shirk, ainsi que leurs adeptes, sans les prendre en sympathie, de ne pas leur ressembler dans ce qui est spécifique en leur religion, de manière à ce que sa personnalité musulmane se distingue de la leur dans la conduite et l'aspect extérieur sans se diluer. Il est exigé également de ne pas se joindre à eux dans leurs diverses fêtes et occasions et de ne pas les féliciter lors de celles-ci, de ne pas les prendre pour alliés et de ne pas sympathiser avec eux. Car aimer les ennemis d'Allah amène à s'accorder avec eux, à les suivre et à agréer leurs actes, sans les éprouver ni les détester. Et ceci, sans aucun doute, s'oppose à la croyance de l'alliance et du désaveu, qui est l'une des composantes les plus importantes de la foi. Allah Ta'ala a dit, « Ya ayyuhal ladina amanu, la tattakhidu adoui wa adouakum awliya, tulquna ilihim bin mawadda. » Al-Mumtahina 1. « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant ainsi l'amitié. » Il a dit aussi, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yu'aduna man hadda Allah wa rasulah, wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. » Al-Mujadila 22. Ou bien Al-Mujadila. Les deux sont justes. « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fustigent leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. » Il a dit aussi, « وَمْنِ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ مَئِدَ 51. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. » Cela concerne aussi l'obligation de ne pas les enjôler, c'est-à-dire de leur faire des éloges ou de les flatter au détriment de la religion. De même de ne pas se référer à leur jugement, de ne pas approuver leur jugement en délaissant le jugement d'Allah, de ne pas les saluer en premier, et de ne pas les honorer par une parole, un acte, etc. Pour résumer, il ne faut pas les prendre pour alliés de façon générale, c'est-à-dire ne pas être en accord avec eux, intérieurement ou extérieurement. Dans le cas où le musulman ne peut extérioriser les rituels islamiques de façon complète, ou que sa religion n'est pas en sécurité, voyager et résider dans les pays de mécréance lui sont alors interdits, de crainte qu'il ne s'allie à eux et ne les aime, et son voyage et sa résidence seront alors considérés parmi l'un des péchés majeurs. Car tous les moyens qui amènent à délaisser ce que l'Azza wa Jal a fait obligation, comme l'accomplissement et l'extériorisation des pratiques religieuses, le suivi du monothéisme, détester les polythéistes, ne pas s'allier à eux, tous ces moyens sont religieusement interdits. Car on redoute en effet que sa personnalité musulmane ne se fonde dans un cercle de mécréance, qu'il perde ses nobles caractères et que sa conduite et son apparence ne subissent de changement. Le tout pourrait le conduire à s'accorder avec eux, à agréer leur état sans réprobation ni haine. Or, il est clair qu'agréer la mécréance relève de la mécréance. Et celui qui agrée le péché est comme son auteur, qu'il soit dans un pays en guerre ou un pays en paix. Dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith jugé bon, dans Sahih Jami' numéro 689, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un péché est commis sur terre, quiconque y assiste et le déteste, dans une autre version, et le désapprouve, c'est comme s'il il n'y a pas assisté. Et quiconque n'assiste pas au péché, mais l'approuve, sera comme celui qui aura assisté, même s'il est loin du péché. S'il approuve le péché, c'est comme s'il a assisté à ce péché. Et lorsqu'il a dit ici, cher, il a dit, en effet, on redoute que sa personnalité se fonde dans un cercle de mécréance, qu'il perd ses nobles caractères, etc. Ça, ce sont des choses, yani, qu'on a vues, qu'on a entendues et vues de nos propres yeux. Des gens qui étaient, par exemple ici en Algérie, qui sont partis vivre là-bas, yani, ils sont restés longtemps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ensuite, yani, petit à petit, ils ont tout perdu de l'islam. Maintenant, yani, il a seulement le nom. Il s'appelle Ali, il s'appelle Omar, il s'appelle Mohamed. Mais ni prière, ni jeûne, ni zakat, ni hajj, ni croyance en l'au-delà, ni rien. Seulement il s'appelle Mohamed ou bien Ali ou bien Subhanallah al-Adim. C'est-à-dire il a fondu, khlas, il n'a plus rien, il n'a que les noms. Certains sont comme ça, beaucoup même. Hein. Allah Ta'ala nous préserve et vous préserve. Vous aussi, Allah Ta'ala vous préserve. Cheikh dit, et le hadith du prophète Islam, qu'on a cité tout à l'heure, il a dit qu'on vient de signaler que l'exception précédente, c'est-à-dire le fait, yani, de rester là-bas, si on a des excuses, il a dit, concerne également celui qui s'occupe d'un malade et celui qui est en état de faiblesse, ne peut pas émigrer, qu'il soit d'origine musulmane ou converti, homme ou femme, incapable d'immigrer pour des raisons médicales, administratives, géographiques ou politiques, qui l'empêchent d'immigrer et l'en rendent incapable, car trop faible, ils ne trouvent aucun moyen lui permettant cela. Ceux-là, s'ils sont sincères, ils sont à l'abri de la menace et sont concernés par le verset où Allah Azza wa Jalla a dit « Illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildan la istata'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa'ula'ika asallahu an yahfu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura » An-Nisa 98-99. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie pour émigrer. À cela, il se peut que Allah Ta'ala donne le pardon. Allah est clément le pardonneur. Pour conclure, qu'on sache qu'il est demandé aux musulmans d'être à la recherche des moyens lui permettant d'être fier de sa religion et de délaisser des voies du rabaissement qui vont à l'encontre de la religion. Ainsi, s'il réside temporairement dans un pays de mécréance pour un besoin, tout en montrant son appartenance à ses pratiques religieuses de façon complète, sans rencontrer d'opposition dans quoi que ce soit, et en réalisant le principe de l'alliance et du désaveu, alors cela est permis à cette condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs approuvé le fait que certains compagnons, radiallahu ta'ala anhum, comme Abu Bakr radiallahu ta'ala anhum, voyager en pays de mécréance pour le commerce. Quant à celui qui ne peut accomplir ce qui a précédé, qu'il tâche alors de ne pas tomber dans les versets qui menacent celui qui n'est pas à l'abri de la tentation ou qui réside au milieu des mécréants par sympathie envers eux. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim » قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. النساء 97. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous? C'est-à-dire, où en étiez-vous à propos de votre religion? Ils vont répondre: nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Pourquoi tu n'as pas quitté ce pays? Puisque tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire le hajj, tu ne peux pas. Qui t'a mis des menottes et t'a mis des chaînes et t'a dit que tu ne dois pas quitter le pays? Ensuite, Allah Ta'ala dit: voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Et vous avez remarqué qu'un peu plus haut, que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a fait permission à ceux qui ne peuvent pas, ceux qui essaient qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont malades, ceux qui ont un malade qui doit, il doit rester à son chevet, ce moi-même. Il doit donc se motiver à immigrer en cherchant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, dans le but d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, et pour faire triompher sa religion et ses alliés. Il échappera ainsi aux ennemis d'Allah. Il atteindra dans la terre de son immigration les buts majeurs, la sécurité et la possibilité d'adorer Allah sans subir ni oppression ni nuisance. Une bonne situation, la fierté, le respect et de larges biens promis à toute personne dans le sentier d'Allah et ne recherchant que le visage d'Allah. Et s'il mourait avant d'arriver dans la terre vers laquelle il voulait émigrer, Allah ne lui fera pas perdre la récompense des vertueux, ceux qui œuvrent et ceux qui fuient avec leur religion. Il lui donnera ce qu'il fait octroyer à ceux qui émigrent dans son sentier. Il leur pardonnera leurs péchés, leur accordera le paradis et les épargnera de l'enfer. Allah Ta'ala dit: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui écoutent la parole et ont suivi ce qu'il y a de meilleur, qui nous protège de l'erreur et des tentations apparentes et cachées, qui nous mène dans le chemin de la guidée et de la réussite, qui nous regroupe avec les élus et qui nous fasse entrer au paradis avec les pieux. Il est certes clément et pardonneur. Le savoir parfait appartient à Allah Azza wa Jal. Et notre dernière invocation: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, Inch'Allah, pour la parole de Cheikh Kous, Habibullah Ta'ala, si vous avez, Inch'Allah, deux ou trois questions, tafadhal.
Barakallahu fikoum wa hasanara ilaykoum al-Warid. Cheikh, on a pas mal de questions. Combien vous nous autorisez de questions, Barakallahu fikoum?
3, 4, maximum 5.
Ahsanara ilaykoum, Cheikh. Un frère vous demande, Barakallahu fikoum, lorsqu'une personne désire faire la hijra, doit-il la faire du jour au lendemain? Ou alors a-t-il le droit de se préparer, par exemple en faisant des allers-retours? Et est-ce que le temps qu'il fasse, qu'il prépare sa hijra, le fait qu'il reste en France est un péché?
Certes, la personne doit préparer sa hijra. Comme par exemple, accumuler un peu d'argent et venir, par exemple, pour voir, c'est l'endroit idéal pour lui et pour sa famille. Et là où, par exemple, c'est mieux pour lui et pour le travail, etc. Et à partir du moment où déjà il a dans le cœur qu'il veut faire la hijra, et alhamdoulilah, il commence à bouger, il commence à faire des causes, à partir de ce moment, Inch'Allah Ta'ala, l'interdiction, le péché, s'élève de lui, Inch'Allah Ta'ala, parce que la niya joue un grand rôle. Celui-là, s'il lui arrive quelque chose et il meurt, alhamdoulilah, il meurt avec l'intention dans le cœur que j'ai commencé à bouger pour faire la hijra, bi'idhnillah Ta'ala. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, a dit: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Il a dit quiconque meurt sans avoir fait une conquête. Bon, quelqu'un va dire, mais il n'y a pas de nos temps, il n'y a pas la conquête. Où sont les kuffars pour que j'aille faire le djihad? Ça y est. Donc il a dit, quiconque meurt sans faire la conquête, ou, voilà, donc, Marbet Faras, ou sans avoir, Ali, sans avoir parlé avec son âme en son intérieur d'une conquête. Il a dit, celui-là meurt dans une des branches de l'hypocrisie. Donc, pour savoir que la niya joue un grand rôle. Il n'y a pas maintenant de djihad, mais dans ton cœur, tu dis, si jamais il y a un djihad, un vrai, et là où les grands savants disent, c'est pas djihad des tkfériens, des bombes et des je sais quoi. Djihad des grands savants. S'il y a ça, il dit, moi, je serai le premier. La même chose pour la hijra. S'il a bon de cœur, il dit, dès que je peux, je démarre, il commence à bouger un peu, alhamdoulilah, yani, il s'est sauvé s'il lui arrive quelque chose, inshallah ta'ala.
بارك الله فيكم وحسن الله عليكم شيخ un frère vous demande ahsan allah alaykum il désire se marier avec une sœur cependant cette sœur n'a aucun mahram en France comment est-il possible qu'il se marie avec elle ou qu'il fasse une rencontre avec elle ahsan allah alaykum
pour se marier avec une sœur qui n'a pas de mahram cette sœur ou bien n'a pas de mahram du tout c'est-à-dire elle est reconvertie. Ou bien, comme a dit ici la question, il a dit qu'il n'a pas de mahram en France. Si elle n'a pas de mahram en France, donc elle a des mahrams dans un autre pays. Si elle a des mahrams dans un autre pays, elle doit contacter son mahram et lui, dans l'autre pays, par téléphone, maintenant c'est très facile, et lui demander de demander à son mahram qui est dans le pays de donner la tutelle à quelqu'un en France. De donner la tutelle à quelqu'un qui lui présente, par exemple, à un voisin ou là, il lui dit, je te donne la tutelle pour marier ma soeur ou ma fille ou quelque chose comme ça. Elle dit, si elle a un mahram à l'étranger, si maintenant elle n'a pas de mahram du tout, comme les reconvertis, il essaye, par exemple, si le centre islamique le marie, alhamdoulilah, s'il ne peut pas, il cherche un imam, pour le marier, alors, si l'imam ne veut pas, personne n'accepte, elle cherche un frère qui est, mashallah,
et il l'a marié bi idhnillah ta'ala. Nous aimerons vous demander barakallahu fikoum cheikh. En France, beaucoup assimilent al-salafiyoun à Daesh. Quel conseil vous nous donnez afin qu'on éclaircisse le manhaj sahih aux gens? Barakallahu fikoum.
Bon, alors le salafi c'est tout sauf Daesh. Le salafi Daesh, vraiment, c'est les opposés. Le salafi Daesh, vraiment, c'est quelque chose d'opposé à 1000%, pas à 100%. Pourquoi? Parce que le salafi marche sur la voie des salafs, qui est quoi? Sa prédication repose sur inviter les gens à connaître l'islam, inviter les gens à connaître le tawhid, avoir un bon caractère, être doux dans la dawa. Marcher avec sens. Alors que suivre les grands savants. Alors que les Daesh n'ont pas du tout ça. Les Daesh, leur but c'est quoi? Leur but c'est aller flamber dans le monde, c'est exploser des bombes, c'est égorger des gens, c'est faire des problèmes. C'est faire des problèmes en assimilant tout ça à, comme quoi ça vient d'Allah. Ça vient de son prophète et ça vient de la sharia. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et la sharia se désavouent de Daesh. Se désavouent de Daesh. Totalement. Naam. Toute personne qui fait partie de Daesh, naam, nous tous, nous, les salafis bin Nathala, on s'en désavoue, naam. Yani, dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde et dans l'au-delà. Je vous donne une petite preuve pour vous sachiez que Daesh ne sont pas sur la voie droite. Une seule preuve. Est-ce que vous connaissez un seul savant dans le monde, parmi les savants connus, qui a dit que Daesh sont sur le droit chemin? Ou bien qui est d'accord avec eux, ou bien qui les encourage? Il n'y a pas. Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, quand il a fait la polémique, le débat avec les Khawarij, qu'est-ce qu'il leur a cité? Il leur a dit, Ayouhannes, méditez, il leur a dit. Il n'y a aucun compagnon du prophète, Ali Sassam, de votre côté. Tous les compagnons sont de votre côté, sont du côté de Ali ibn Abi Talib. Méditez. Comment se fait-il? Un seul compagnon n'est pas avec vous. En même chose ici. Dash, un seul savant n'est pas avec eux. C'est vraiment donc. Et ensuite, pour terminer, pour parler de Dash, il faut dire la vérité, il ne faut pas cacher aux gens. Dash, yani, c'est une fabrication, yani, américano-sioniste. Américano-sioniste. Tout le monde sait que, yani, ça vient de là-bas et que ça n'a rien à voir avec le djihad et avec tout. Même les Américains disent que ça vient de nous et c'est nous qui avons fait ces gros comme ça. Chaque 2-3 années, maintenant c'est le Qaïda, après c'est Daesh, après c'est Gda. Et il y a comme ça, toujours il y a une secte nouvelle qui arrive pour y aller tremper des gens et pour amouchir l'islam et pour faire fuir des gens de l'islam. Maintenant, subhanahu wa ta'ala fera triompher sa religion, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Barakallahu fikoum wa hassan alaykoum, Cheikh. Dernière question, wa hassan alaykoum. Pas mal de frères et sœurs, Cheikh, sont éprouvés par le fait de ne pas être marié, sinon les lécoum, il voudrait un conseil de votre part, en attendant qu'il patiente. Chacun Allah et lécoum.
D'abord, qu'il patiente, comme on dit l'Ostranou Azzawajal, et comme on dit le prophète Aslam, il patiente en jeûnant, jusqu'à ce que l'Ostranou Azzawajal fasse une solution, et qu'il sache que toute personne que l'Azzawajal a écrit, sur l'autre marque pour la table être préservée. Qu'elle va se marier, elle va se marier. Tôt ou tard. Si Allah Ta'ala ici, cette personne va se marier, elle va se marier tôt ou tard. Moi, dans le cours passé de samedi, on parlait aussi de mariage et une sœur qui ne s'est pas mariée comme ça. J'aurais donné l'exemple d'une de mes sœurs d'allaitement. Ortimin Radar. Une de mes sœurs d'allaitement, je leur ai dit, elle s'est mariée à 48 ans. Elle ne s'est jamais mariée. C'est marié à 48 ans. Ensuite, mon épouse m'a corrigé après. Elle m'a dit, pas à 48 ans, à 50 ans exactement. À 50 ans, elle s'est mariée. Et ils ne sont jamais se mariés auparavant. Donc, quand l'autre a écrit à une personne qui se marie, même si c'est à 60 ans, il va se marier. Mais lui, la personne doit faire des causes. La personne doit faire des causes. Si c'est une sœur, par exemple, elle dit à ses amis, à elle, ses sœurs, yani, elle leur dit, par exemple, je veux me marier. Ensuite, ses sœurs, ses voisines, etc., l'aident en lui cherchant. Celle-là, elle lui cherche son frère, l'autre, elle lui cherche son cousin, l'autre, elle lui cherche Oulitrala, et comme ça, elle essaie d'être une cause pour les mariés, bi'idhnillah. La même chose pour le frère, yani. Il dit à ses amis, yani. Il dit à ses connaissances, je veux me marier. Même mieux que cela, c'est de la sunna que la personne elle-même, c'est elle qui dise à la personne, j'ai ma soeur si tu veux te marier avec elle, j'ai ma cousine si tu veux te marier avec elle, j'ai ma fille si tu veux te marier avec elle. Omar Bukhtab a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa si tu veux te marier avec elle. Il a dit à Abu Bakr Siddiq, Hafsa si tu veux te marier avec elle. Il n'a pas dit au prophète, il a dit à Abu Bakr. Il y a Hafsa, je te la présente, c'est pas je te la présente dans le sens je vais te la ramener, mais je te la présente comme prétendante si tu veux te marier avec elle. Ensuite, il est allé dire à Uthman ibn Affan, il y a ma fille Hafsa si tu veux te marier avec elle. Et même si dans le Coran, il n'y a uridu en unki haka ihda bnatiya hatayn ala ta'jurani thamani hijaj. Je veux te marier avec l'une de mes deux filles. Quelqu'un qui, certains disent, il s'appelle Shu'aib, mais c'est pas Shu'aib. Quelqu'un dit, dans le Coran, quelqu'un a proposé à Moussa alayhi salam. Il a dit, je veux te marier avec une de mes deux filles. Pourquoi? Quand c'est toi qui dis, qui propose, tu as l'avantage de lui avoir cherché quelqu'un qui, d'après toi, remplit les conditions. Toi, tu ne vas pas au premier venu, tu lui dis, il y a ma fille si tu veux l'épouser. Mais, parce que tu as vu quelqu'un, tu as vu qu'il était mashallah dans la science, mashallah dans le caractère, non? C'est mieux donc de lui dire, peut-être qu'il va accepter, c'est mieux que qu'il vienne quelqu'un qui, je ne sais pas, peut-être apparemment il est bien alors qu'il est plein de problèmes, de machin, il va l'épouser. Donc des personnes, inshallah ta'ala, doit faire des courses. Et parmi les meilleures courses, c'est de faire beaucoup de doigts et de demander à l'Ospano et à l'Ospano de vous marier. Naam.
بارك الله فيكم الشيخنا الكريم وحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة بهذه الكلمة الطيبة وفقكم الله لكل خير شيخ
آمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم و je suis content et heureux de vous avoir fait ces petites paroles vous avoir يعني rapporté les paroles de Cheikh Fous حفظه الله تعالى et que الله سبحانه وتعالى vous aide n'oubliez pas une chose que vous êtes يعني dans un pays de fitna etc. Et que, inchallah ta'ala, je sais que la plupart d'entre vous ont la niya d'émirer et vont essayer. Et ceux qui, en général, n'oubliez pas que vous avez de grandes récompenses, inchallah ta'ala, pour des grandes fitnas qu'il y a là-bas et que vous êtes en train de patienter. Parce que quand il y a la fitna, on patiente, bien sûr, on a plus de récompenses que dans un endroit où il n'y a pas de fitna. Donc, en ce sens, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il alourdisse vos balances de hasanat yom al-qiyama.
Tous les frères vous passent le salam, Cheikh Al-Karim, on espère d'autres rencontres avec vous, Inch'Allah.
Alaykum alayhum salam, et ici l'appel à la prière de Richard. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu wa la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.